C'est une histoire vraiment horrible que va nous raconter ce soir l'émission Enquête, donc qui va être diffusée sur les ondes de Radio-Canada à partir de 21h. C'est un reportage de Pascal Turbide. Un logiciel de la DPJ serait en cause dans la mort d'un enfant de 3 ans. Imaginez-vous donc, un logiciel, tu dis, mais c'est quoi le rapport? Pour essayer de comprendre, on va aller rejoindre l'une des personnes qui a été interviewée justement pour ce reportage. Elle s'appelle Nancy Poulain. Elle est travailleuse sociale et représentante syndicale nationale aussi pour l'APTS, qui est un syndicat donc dans le domaine de la santé et des services sociaux. Bonjour, Madame Poulain.
Bonjour.
Essayez de nous faire comprendre là, en vulgarisant là, un petit peu là, c'est quoi le rapport entre le logiciel puis la mort d'un enfant?
Ben en fait, je pourrais pas faire la même équation que vous me présentez. Puis c'est sûr que je peux pas commenter directement la situation de cet enfant-là, mais je peux vous expliquer comment on prend nos décisions en protection de la jeunesse. Je pense que ça peut apporter un éclairage intéressant.
D'accord.
Au fond, c'est que effectivement, les intervenants ont l'obligation de compléter un système de soutien à la pratique. Dans notre jargon, c'est le SSP. Le SSP, il nous pose des questions. C'est un outil informatique qui pose des questions et qui n'en vient qu'à donner des conclusions, des recommandations. On est dans l'obligation de le faire, mais vous comprendrez que ce qui est mis en avant-plan, c'est toujours le jugement professionnel de l'intervenant responsable de la situation.
OK, mais Madame Poulain, là, vous me parlez en jargon que je comprends pas. Donnez-moi un exemple très concret. Il y a un signalement qui arrive. Vous êtes une travailleuse sociale qui travaille pour la DPJ. Dites-moi ce qui arrive, puis à quel moment le logiciel arrive dans le travail des intervenants ou des intervenantes?
Il arrive à différents niveaux. Des fois, la décision, on a déjà fait l'analyse des faits qui nous sont déclarés, la décision est prise, puis on doit compléter l'outil. Puis parfois, la décision n'est pas prise, puis on complète l'outil avant. Mais au final, la décision est toujours prise à partir des échanges cliniques qui ont été faits. C'est jamais le logiciel qui va guider la décision qui va être prise dans la situation d'un enfant.
OK, mais dites-nous, le logiciel, il sert à quoi? C'est ça que j'essaie de comprendre.
Le logiciel, il nous pose des questions sur les éléments qui nous sont signalés, par exemple. Là, il pose des questions, la vulnérabilité de l'enfant, les faits. Puis là, c'est long, là, je vous dirais, là, c'est long et ardu. Puis au final, lui, à un moment donné, il rend une décision à savoir les faits sont-ils fondés. Est-ce que la sécurité de développement de l'enfant est compromise? Si elle est compromise, dans quel article de loi? Sauf que ça arrive des fois qu'il va produire une décision qui est incohérente avec ce que nous, on prend comme décision. Ce qui est grave, c'est de nous obliger à le faire, puis dans le fond, que ça soit pas considéré comme un outil de soutien à la pratique pour les intervenants. Nous, on dénonce ça depuis longtemps. On ne souhaite plus remplir cet outil-là parce que ce n'est pas vrai de dire que ça soutient la pratique des intervenants. C'est le ministère qui oblige les intervenants à le compléter.
OK, donc dans toutes les DPJ du Québec, une intervenante est appelée à répondre, dans le fond, à un questionnaire. C'est le questionnaire du logiciel, si on peut dire. Donc, elle doit répondre à un certain nombre de questions. Et selon les réponses obtenues, le logiciel produit une recommandation XYZ sur, par exemple, la vulnérabilité de l'enfant. Est-ce que sa vulnérabilité est très grande ou est-ce qu'elle est moins grande, etc. Et ce que vous me dites, c'est que la recommandation produite par la machine par moment, ne correspond pas à l'évaluation que fait l'être humain, c'est-à-dire l'intervenante. On arrive à comme deux résultats différents. L'intervenante peut dire, cet enfant-là est vraiment dans un milieu qui est dangereux pour lui, mais la machine, elle, le fameux logiciel, produit une conclusion qui dit, ben non, finalement, c'est pas si pire que ça, fait qu'on peut le laisser dans sa famille, genre.
Vous avez très bien compris. C'est exactement ça qui se produit actuellement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intervenant, lui, il va toujours se fier à son jugement clinique. Mais ce qui est terrible, c'est que quand il y a une incohérence entre ce que le système donne comme décision et ce qu'on prend comme décision, ben c'est qu'il faut s'assurer de retourner répondre à nos questions pour s'assurer qu'au final, la décision rendue par l'outil informatique soit la même que nous cliniquement. Parce que s'il y a une incohérence, vous comprendrez que si jamais il y a quelqu'un qui regarde la situation de l'enfant, le dossier informatisé de l'enfant, bien, il va avoir de l'incompréhension de penser que l'outil a dit une chose puis l'intervenant a fait autre chose.
Dans le cas du petit Thomas, donc, qui est décédé à l'hôpital d'Alma en juin 2016, la conclusion du logiciel, c'était qu'il était un code 3, donc un code sans danger immédiat, alors qu'il aurait dû être un code 1, c'est-à-dire risque très, très grand pour sa sécurité et donc intervention immédiate. Un code 1, c'est intervention immédiate, mais le logiciel disait non, 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 pas intervention immédiate. C'était incroyable.
Mais effectivement, mais comme je vous dis, moi, j'ai pas eu accès aux précisions.
Non, mais je vous demande pas de. Je comprends. Je veux pas que. C'est parce que là, je rapporte pour les fins des auditeurs, là, les conclusions du reportage, donc, de Radio-Canada qui va être diffusé ce soir parce qu'ils ont déjà mis en ligne l'essentiel, donc, de leur découverte, dans le fond, de leur enquête. Et moi, je comprends que vous pouvez pas commenter, là.
Mais en fait, là, j'aimerais ça vous dire qu'ils n'ont pas mis l'essentiel actuellement de ce qui va être présenté ce soir. Au contraire, ils ont fait sortir la controverse concernant cet outil-là qui nous est imposé. Mais ce soir, puis si vous avez pris connaissance du vidéo qui vient tout de suite de sortir sur Facebook, on va mettre en lumière les intervenants qui, jour après jour, au quotidien, accompagnent des enfants, comment ce travail-là est complexe, comment leurs conditions de travail est difficile, ça va être l'essence même du reportage. Le reportage ne sera pas sur le décès de l'enfant et est-ce que l'outil a causé la mort de l'enfant. Moi, je pense qu'on s'égare notre attention que sur cet aspect-là. Il faut en parler, mais ce qui est important, c'est de voir comment ces intervenants-là, au quotidien, font des petits miracles, apaisent des souffrances et font des différences immenses dans la vie des enfants.
Est-ce que c'est vrai, Mme Poulain, que dans certains cas, pour ne pas laisser la machine décider, les intervenantes vont, dans le fond, donner à la machine les réponses qu'elle veut pour arriver avec une conclusion qui est proche de celle de l'intervenante, pour, dans le fond, amener la machine à conclure la même chose que l'être humain qui devrait décider, je suis bien d'accord avec vous.
Ben oui, c'est sûr que c'est ce qui se produit sur le terrain. Je vous le disais tout à l'heure, si jamais il y a une décision qui est rendue, qui est différente de celle de l'intervenant, l'intervenant va aller modifier les réponses qu'il avait données pour que, effectivement, la machine dise la même réponse que sa décision clinique. C'est ça qui est terrible parce que il y a parfois des questions qui nous sont adressées avec des choix de réponse, mais il n'y a pas la réponse que je souhaiterais, donc il faut que j'en mette une quand même pour passer à la question suivante. Mais c'est sûr que ça vient teinter la décision finale. Puis oui, les intervenants doivent retourner pour corriger certaines réponses pour que la machine dise la même chose.
Mais ça veut-tu dire que ça pourrait engager votre responsabilité civile à un moment donné? Est-ce que quelqu'un pourrait dire, mettons qu'il arriverait quelque chose à un de ces enfants-là, est-ce qu'une famille pourrait poursuivre l'intervenante en disant elle aurait pas dû jouer avec les réponses, elle aurait dû écouter le logiciel, puis le logiciel disait ça, fait qu'elle s'est trompée, fait qu'on la poursuit?
Ben moi, je trouverais ça terrible parce qu'il faut se fier bien plus au jugement clinique de l'intervenant social que d'une machine qui, dans le fond, n'a pas la connaissance de l'ensemble de la situation comme l'intervenant.
Madame Poulain, j'ai pas le goût de m'ostiner avec vous là-dessus. Je suis d'accord avec vous que c'est l'être humain qui doit décider. Ce que je vous dis, c'est qu'un outil comme celui-là, à un moment donné, si quelqu'un apprenait que le logiciel produisait une autre réponse que celle que l'intervenante a décidée finalement, j'imagine qu'on peut se retrouver dans une situation où une famille pourrait dire, il est arrivé quelque chose, fait que vous auriez dû écouter la machine, puis vous ne l'avez pas écouté, fait que vous me versez un dédommagement. Je pense que c'est un scénario qui est possible, là.
Ben, d'un côté comme de l'autre, on est toujours coincé, puis on est toujours jugé, peu importe les interventions qu'on fait en protection de la jeunesse. C'est que d'un côté, si la machine nous dit quelque chose, puis que dans le fond, c'est différent de ce que l'intervenant aurait pensé, il y a un risque, et l'inverse aussi. Tu sais, dans le fond, on pourrait accuser le fait que l'intervenant n'ait pas respecté ce que la machine a donné comme décision, puis l'inverse aussi, là. On est coincé de tous les côtés. Moi, je pense qu'il faut faire une révision, puis ça, c'est le ministère qui a cette responsabilité-là. Il faut revoir l'outil qui est mis à disposition des intervenants. Il faut revoir le sens obligatoire de cet outil-là, revoir sa pertinence, puis faire confiance à l'autonomie professionnelle des intervenants.
Mais moi, je dirais, Mme Poulain, qu'à la rigueur, si la machine peut soutenir, aider l'intervenante, je veux bien. Mais moi, ce que j'aime pas dans ce système-là, c'est que vous êtes placé dans une situation où vous êtes obligé de changer par moment, changer les résultats, jouer avec les résultats pour pouvoir imposer en bout de ligne votre bon jugement professionnel. Tu sais, qu'elle vous aide, qu'elle soit en soutien, c'est une chose, mais qu'elle devienne une espèce de diagnostic concurrent au vôtre, c'est là que je me dis, ça n'a pas de bon sens. Là, on peut pas, ça peut pas être ça, là, avec toutes les conséquences que ça pourrait avoir, comme celles que j'ai évoquées. Coudonc, au ministère de la Santé et des Services sociaux, de qui vous relevez, là, ça doit, vous l'avez déjà remis en question, l'utilisation de ce logiciel-là. Il continue à dire que vous n'avez pas le choix, vous devez l'utiliser. Il y a pas personne, là, mettons, qui a commencé à dire, ben, peut-être que finalement, on devrait se remettre en question un petit peu là-dessus, là.
Ben, en fait, il y en a eu des remises en question. Moi, là, je travaille en protection de la jeunesse depuis 2003. L'outil a été implanté en 2001. Donc, déjà 2 ans plus tard, quand moi je suis arrivée, c'était controversé, puis les intervenants revendiquaient le fait de ne pas compléter cet outil-là. Donc, ça nous a été imposé quand même. Donc, ça fait des années qu'on fait ces revendications-là. Il avait essayé d'implanter le même genre d'outil à une autre étape du processus de la protection de la jeunesse, qui est l'orientation, parce que là, il est obligatoire à la réception, traitement des signalements et à l'évaluation. Ils ont tenté de l'implanter à l'orientation. Ça a été énormément controversé et les pressions qui ont été faites ont fait en sorte que le ministère a reculé et il n'est plus obligatoire. On n'a pas à le compléter.
Il n'est plus obligatoire à cette étape-là, mais il est encore obligatoire. Il est encore obligatoire au début.
Effectivement, mais moi je pense qu'il faut re-questionner, là, comme vous l'avez dit, mais dans le fond, il avait tenté quand même de continuer à implanter cette chose malgré que ce soit contesté par les intervenants.
OK, il me reste une minute. Dans le fond, vous devez espérer que la commission Laurent, qui se penche sur le fonctionnement de la DPJ, va faire une recommandation là-dessus. Là. Moi, je pense bien qu'ils passeront pas à côté, là.
Ben moi, je pense que notre message va être entendu aujourd'hui, puis que la commission va sûrement traiter de cet élément-là pour faire des recommandations.
Dans son rapport, ben oui, c'est ça. Très bien. Très bien, ben oui, effectivement. Nancy Poulain, donc travailleuse sociale, puis représentante syndicale nationale pour l'APTS. Merci beaucoup pour l'entrevue.
Merci.
Dans quelques instants, vous allez entendre la nouvelle à l'effet que vous êtes des actionnaires d'un projet de dirigeable. Tu sais, un gros ballon, là. Tu sais, comme le Hindenburg dans le temps, là. Vous savez, un gros ballon, là. Ben, il y a un projet dans lequel on vient de mettre 30 millions. Il y en a un, je pense que c'est Pascal Bérubé. Oui, c'est Pascal Bérubé du Parti québécois qui a dit « C'est une grosse ballonne, cette affaire-là. » Alors, nous, on s'est dit 30 millions, c'est quand même beaucoup d'argent. Et après la pause, vous allez entendre le PDG de l'entreprise vous parler et vous expliquer c'est quoi ce projet-là, puis vous jugerez si vous pensez qu'on a fait un bon investissement en allant mettre 30 millions dans ce projet-là, tout de suite après la pause.